Gloire à notre Dieu. Éphésiens chapitre 5, c'est le texte retenu pour la méditation ou l'étude de la parole pour ce soir, comme cela a été le cas pour mercredi dernier. Mercredi dernier, nous avons couvert le bloc des versets 1 à 7. Aujourd'hui, nous progressons dans la considération de ce passage. Nous allons aborder les versets 8 à 14 par extension. Mais normalement, au verset 13, on est correct. Alors, je vous invite à ouvrir la Bible de votre demeure étant, du confort de votre salon, ou de votre chambre, ou de votre sous-sol, de votre salle à manger. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, la Bible, dans Éphésiens chapitre 5, les versets 8 à 14. Mes frères et mes sœurs, nous allons lire ensemble. Je ne peux pas vous voir lire avec moi, mais je sais que vous lisez avec moi. C'est un peuple de Dieu. Alors, je suis sûr que vous allez le faire. Alors, voilà. Lisons ensemble l'oratoire. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez, verset 10, ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Dès le Seigneur, dans son amour parfait, dans son amour incommensurable, bénir et sanctifier la lecture de sa parole pour la plus parfaite édification commune de nos âmes, mes frères et mes sœurs et amis internautes, ceux qui nous écouteront plus tard en différé. Et vous l'aurez remarqué, après avoir traité d'une première manière concrète dont l'Église, comme peuple du Seigneur, est appelée à marcher, au verset 2 du chapitre 5 de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, où Paul dit « marcher dans la charité ». Ah. Maintenant, vous l'aurez compris, il nous indique une deuxième manière de marcher. Hein? Il dit marcher, hein, dans la lumière, ou alors marcher comme des enfants de lumière. Donc marcher dans la lumière. Ah, qui a dit que la Bible n'est pas logique. Paul a fini de dire au chapitre 4, hein, vous vous rappelez, au chapitre 4, Paul a fini de dire, vous ne devez plus marcher comme les païens. Après avoir dit cela, il a campé la manière de marcher des païens, il l'a définie, il l'a décrite. Après, il a dit l'Église, donc voilà pourquoi je vous dis que vous ne devez plus marcher comme eux, étant donné que vous avez appris Christ autrement. Et maintenant, mes frères et mes sœurs, Paul a évoqué à la fin du chapitre 4, eh bien, l'importance pour l'Église de ne pas attrister le Saint-Esprit. Une manière pour lui de nous dire, on est au chapitre 4, un résumé, OK? Et Paul dit très clairement, verset 30, chapitre 4, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ce que Paul est en train de dire, c'est que chaque fois que l'Église tente ou essaye de marcher comme les païens, elle attriste le Saint-Esprit de Dieu par lequel elle a été scellée. Donc, Paul dit, il ne faut pas faire ça. Et arrivé au chapitre 5, Paul continue de rendre clair la démarcation qu'il doit y avoir entre l'Église et le monde, ou alors entre l'Église et les païens, ou alors entre la marche de l'Église et la marche des païens. Et puis, pour rendre ça plus clair, il choisit une manière beaucoup plus concrète encore, un champ, une poche où l'Église doit marcher. Et il dit, marcher dans la charité. Et il a expliqué qu'est-ce que cela veut dire. Nous avons vu ensemble qu'il a expliqué ce que cela veut dire de marcher dans l'amour. Il dit, la marche dans l'amour, c'est une marche qui rejette l'impudicité, l'impureté, la cupidité, cupidité sexuelle en particulier, mais toute forme de cupidité, l'impureté, l'impureté sexuelle en particulier, mais toute forme d'impureté. Il dit, c'est ça l'amour. Il dit, autrement dit, il dit, c'est ça marcher dans l'amour. C'est refuser la voie de l'impudicité. C'est refuser la voie de la débauche. C'est refuser la voie de l'inconduite. C'est refuser la voie, eh bien, des plaisanteries obscènes, des propos obscènes. C'est refuser la voie, eh bien, des paroles déshonnêtes, des paroles désagréables, ce qu'on appelle en français des invectives, des juments, mon cap jouer moun. Paul dit non, ce n'est pas la vie de l'Église, ça c'est la vie des païens. Mais vous et moi, nous savons que ce n'est pas tout païen comme ça. Okay? Il y a un païen qui OK, on compte ça déjà. Mais il dit les païens, une manière pour lui de parler de la plupart des païens. Les païens qui ne sont pas comme ça la plupart du temps, c'est une exception aussi. Alors, c'est de ça qu'il est question. Et il progresse dans sa pensée saine, dans sa pensée biblique. Il progresse dans l'expression de sa pensée évangélique. Quand maintenant, au verset 8, il dit, marchez comme des enfants de lumière. C'est clair, ça. Un, marcher dans l'amour. Deux, marcher comme des enfants de lumière. Paul a une motivation. Paul fait un constat. Hein? Il a une motivation, je dis bien. Il fait un constat. Il dit, l'Église est passée des ténèbres à la lumière. Autrefois, vous étiez, verset 8, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Voilà le constat de Paul. L'Église est passée des ténèbres à la lumière. Et de ce fait, dans la pensée évangélique, dans la pensée biblique, dans la pensée de Paul, ou du Saint-Esprit de Dieu, il n'est pas normal. Il est anormal, peuple du Seigneur, que l'Église veuille retourner aux œuvres des ténèbres. Il n'est pas normal, il n'est pas intelligent, il n'est pas sacré, il n'est pas saint que l'Église veuille retourner aux œuvres des ténèbres. L'Église, c'est une entité divine. L'Église est passée à une nouvelle vie. L'Église maintenant a une vie riche. L'Église a une vie de bénédiction. L'Église a une vie gratifiante. Et alors, l'Église est le peuple du royaume. Nous l'avons vu ensemble. En tant que peuple du royaume, l'Église est caractérisée par la lumière. L'Église est un peuple de lumière. C'est ce que Paul dit sous la baguette du Saint-Esprit de Dieu. Incidemment, selon Paul, toute volonté de l'Église de retourner à la vie décevante d'autrefois, la vie d'avant la conversion, C'est une erreur. C'est une erreur pour l'Église de vouloir retourner aux œuvres des ténèbres, de vivre comme avant, comme auparavant, comme la non-Église. Paul est en train de nous dire que l'Église ne devrait jamais se laisser tenter par un quelconque plaisir temporaire. L'Église ne devrait jamais se laisser tenter par un quelconque plaisir temporaire. Un plaisir temporaire que l'Église sait très bien qui est satisfaisant, entre guillemets, pour un très court moment avant d'amener l'Église à la déception. Quand je dis l'Église ici, je parle de la communauté et je parle de l'individu. Je parle de l'Église communautaire et je parle de l'Église individuelle. C'est-à-dire chaque membre, chaque église qui compose l'église. Ah. Parfois, à première vue, le retour en arrière que tente l'église peut sembler séduisant. Parfois, à première vue, ça peut sembler attractif, intéressant, porteur, comme on dit. Mais Paul invite l'église d'Éphèse d'abord. Et après, nous autres, Paul nous invite à réfléchir avant d'agir. Il nous invite à réfléchir profondément. Marcher comme des enfants de lumière. Pourquoi? Mais parce que autrefois, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous ne l'êtes plus. Vous n'êtes plus ténèbres, vous êtes lumière. Frères et sœurs, malgré toute apparence, malgré tout faux semblant, l'ancienne vie que toi et moi, nous avions avant la conversion, c'était une vie de ténèbres. Le monde nous avait trompés en nous faisant croire que c'était la lumière, que c'était la sagesse, la bonne vie est là. Mais lorsque le Seigneur nous a ouvert les yeux pour comprendre les choses de Dieu, nous avons compris, vous et moi, en tant qu'Église du Seigneur, que la lumière du monde, c'est une fausse lumière. C'est un simulacre de lumière. C'est un faux semblant de lumière. C'est une lumière mensongère. La vérité fondamentale, c'est que nous étions, avant d'avoir été l'Église, nous étions dans un royaume de ténèbres. Le monde représente un royaume de ténèbres. Je dis représente, mais c'est une manière de parler. Mais en réalité, le monde représente, le monde est le royaume des ténèbres. Et l'Écriture nous apprend que Satan, il est dominateur des ténèbres, d'ici-bas règne dans ce royaume, dans ce monde. Incidemment, nous qui sommes lumière aujourd'hui, nous avons été délivrés du pouvoir des ténèbres par le sang de Jésus. Et nous avons reçu autorité, pouvoir, domination sur les ténèbres et les forces des ténèbres. Incidemment, le règne des ténèbres est une réalité passée pour nous. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. En tant que saints de Dieu, en tant qu'Église du Seigneur, en tant que peuple habité par Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il n'y a pas de raison pour l'Église d'avoir encore quoi que ce soit à voir avec le règne des ténèbres. C'est ce que Paul nous enseigne ici. À la conversion, l'Église entre dans le royaume de lumière et l'Église devient une nouvelle créature. L'Église fait partie d'une nouvelle humanité. Dès lors, frères et sœurs, tout retour de l'Église à l'ancien royaume des ténèbres est à exclure par l'Église. L'Église est maintenant lumière dans le Seigneur. Alors, l'Église doit vivre à la lumière de cette lumière. L'Église doit vivre différemment de ceux qui vivent dans les ténèbres. Je ne sais pas si vous avez fait une remarque. Paul ne dit pas que l'Église vivait dans les ténèbres. Moi, j'en sais, je dis vivait dans les ténèbres. Bien que c'est cela le cas. Mais Paul utilise un langage pour bien faire ressortir l'identité de l'Église et la nécessité pour l'Église de démarquer des œuvres des ténèbres, des pratiques des ténèbres, des comportements, des attitudes, des vices, des traditions, des façons de faire des ténèbres. Il dit, l'Église était ténèbres et maintenant elle est lumière. Bien sûr, nous savons que cela veut dire vivre dans la lumière, être dans la lumière. Mais le langage de Paul est radical. C'est plus fort que être dans la lumière. C'est aussi ça, mais c'est plus que ça. Non, tu n'es pas que dans la lumière, Église, l'oratoire. Tu es la lumière. Décidément, nous l'avons vu ensemble. On a étudié Matthieu chapitre 5 à 7. Le Christ a dit, maintenant vous, vous êtes la lumière du monde. Paul n'a rien inventé. Il n'a fait que parler à la manière du Christ. Vous, vous êtes la lumière du monde. Et je vous avais dit ça quand on regardait ce verset-là. Et le Christ n'a pas dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, vous. Dans la langue originale, il y a vous. Vous, vous êtes la lumière du monde. C'est plus que vous êtes la lumière du monde. Quand quelqu'un dit, vous êtes la lumière du monde, ça veut dire, c'est vous la lumière du monde. Il n'y en a pas d'autre. C'est l'oratoire, la lumière du monde, il n'y en a pas d'autre. On va prendre, on va prendre, on va prendre Ebenezer, on va prendre l'autre, on va prendre l'autre, on va prendre l'autre. L'homme dit, il n'y en a pas d'autre, ça me le dit, c'est-à-dire que, à part les autres églises, c'est vous la lumière du monde, pas le monde qui est la lumière du monde. C'est radical. Donc, Paul veut souligner la différence et la nécessité de la démarcation. L'Église est un peuple différent. Il fut un temps où ça paraît que l'Église était un peuple différent. On voyait ça. Quand ma mère s'en allait au marché, au pont de l'Esther, ou n'importe où là, les gens pouvaient voir que ma mère était une chrétienne. L'Église de Dieu, c'est l'Église du Dieu de lumière. L'Église, c'est l'Église de Dieu, et Dieu, c'est le Dieu de lumière qui n'a point de ténèbres en lui, nous dit la parole de Dieu, 1 Jean 1er, verset 5. L'Église est une lumière, un. Et deux, l'Église habite dans une lumière. Gloire à notre Dieu. C'est la lumière qui habite dans la lumière. Ah, l'Église, c'est une lumière. Dans la mesure où l'Église est porteur de la lumière de Dieu. Hein? L'Église n'est pas lumière par elle-même. Dieu, nous le verrons, a fait de l'Église la lumière du monde. En dehors de l'œuvre de Dieu, en dehors de la grâce de Dieu, eh bien l'Église n'est pas différente du monde. Mais comme l'Église a été sanctifiée, lavée, purifiée, pardonnée, mise à part, choisie dès avant la fondation du monde, éclairée et habitée par Dieu qui est la lumière, l'Église est devenue lumière. Et cette lumière vit dans la lumière dans la mesure où l'Église vit en Christ et Christ vit en l'Église. Donc c'est la lumière dans la lumière. Gloire à notre Dieu. Et Paul dit ça, oui. Il dit, regardez bien verset 8, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Je n'ai rien inventé là. Vous êtes lumière dans le Seigneur, étant branché, étant connecté à Christ qui est la lumière par excellence, le Dieu de lumière. Et l'Église est lumière. Plus que dans la lumière, elle est lumière et elle est dans la lumière. Gloire à notre Dieu. Par conséquent, l'Église est appelée à marcher comme des enfants de lumière. C'est comme ça que Paul justifie son invitation, son encouragement, son enseignement, son exhortation au fait que l'Église doit marcher comme des enfants de lumière. C'est-à-dire, soyez ce que vous êtes. Soyez ce que Dieu a fait de vous. Tout simplement. L'Église n'a pas inventé un mode de vie. Le chemin est déjà tracé, tout tracé devant l'Église. Et le travail est déjà fait. L'Église n'a qu'à marcher dans le travail qui a été fait. Laissez la lumière de Jésus-Christ, de Dieu, de l'Évangile, briller dans vos conversations, dans votre ministère, dans vos choix, dans vos décisions, dans vos conduites, dans vos attitudes, dans vos comportements. Laissez la lumière de l'Évangile briller. C'est possible. Je disais dimanche dernier, en chair, Dieu ne me demande pas ce qu'il ne m'a pas donné. C'est vrai pour l'argent, c'est vrai pour le temps, c'est vrai pour toute bagaille. Salman demande pas moins déjà, c'est un Dieu de grâce. C'est Satan qui a demandé moun sal pa bali, de pou pa bali li ka se kou. Mais mon Dieu lui-même, l'aile de marcher dans la lumière, il connaît une bonne capacité pour ça déjà. Il fait de vous lumière déjà. Il va où la puissance du Saint-Esprit déjà, qui est une lumière en toi pour t'éclairer, éclairer ton chemin. Si je ne pas marcher dans la lumière, c'est pas faute ni Satan ni mon Dieu. C'est ma faute. Il m'a tout donné déjà ce qu'il me demande. Paul dit essentiellement, le monde doit voir la lumière de Dieu dans la façon dont les chrétiens se conduisent. Comment ça va dans le ministère? Comment ça va la caille? Comment ça va dans l'association yo, en diaconat, et j'en passe. Le fruit de la lumière, verset 9, car le fruit de la lumière consiste, en verset 9, hein, en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Gloire à notre Dieu. Ah, vous savez, le fruit, en général, hein, a priori, le fruit parle de récolte. Hein. Le fruit parle de récolte. La pomme, c'est le fruit du pommier, exemple. L'orange, c'est le fruit de l'oranger. La papaye, c'est le fruit du papayer. La cerise, c'est le fruit du cerisier, on connaît. Et le fruit parle de récolte, de moisson. Et dans le contexte où nous avons ici le mot fruit, hein, verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonnes œuvres. C'est ce que Paul aime faire. Il aime argumenter, il aime expliquer. Il dit, marche dans la charité. Il explique qu'est-ce que ça veut dire. Il donne quelques exemples, hein, de manière de marcher, en refusant l'impudicité, l'impureté, ou qu'on ait les mauvaises paroles, les mauvaises plaisanteries, etc. Et maintenant, il dit, marche dans la lumière, et il va donner quelques exemples de comment marcher, quelques attitudes concrètes, quelques comportements concrets qui traduisent une marche de l'Église dans la lumière. Hein? Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ici, il est question de ce que Dieu a fait en nous, comme je viens de le dire. Paul parle ici de l'œuvre de Dieu dans la vie de l'Église. La présence du Saint-Esprit dans la vie de l'Église produit un fruit. La présence du Saint-Esprit de Dieu dans la vie de l'Église produit un fruit. Comme Jésus, le Saint-Esprit est lumière parce qu'elle est de l'essence divine. Elle est de la personne divine, comme le Père, comme le Fils. Donc, le fruit de l'Esprit dont l'apôtre Paul parle ici, c'est le fruit de la lumière. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de l'Église, c'est le fruit de l'œuvre de la lumière. Ainsi, la lumière n'a rien à voir avec les ténèbres, puisque les ténèbres ne peuvent porter aucun fruit agréable à Dieu, aucun fruit acceptable devant Dieu. C'est l'œuvre que l'Esprit de Dieu fait dans l'Église qui est acceptable à Dieu, mes frères et mes sœurs. Le fruit produit par la lumière de l'Esprit, Paul dit, c'est la bonté. Ah, et toutes sortes de bontés. Mais on dit la bonté pour simplifier. C'est la bonté, c'est la justice et la vérité. La bonté ici nous rappelle ce que Paul dit en Éphésiens chapitre 2, verset 10, à savoir que le Christ nous a sauvés pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance. Voyez, l'idée de bonne bonté. Quand on se met à pratiquer ces bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance, on peut être certain par la grâce du Seigneur de vivre dans la bonté, de vivre une vie de bonté, de marcher dans la lumière sous l'angle de la pratique de la bonté chrétienne. Gloire à notre Dieu. Je crois que le frère Ezel a lu aujourd'hui ou mercredi dernier, hein, ce que Dieu s'attend de notre part, c'est que l'Église pratique le droit, l'Église aime la loyauté, ou bien la justice, l'équité, et que l'Église marche humblement avec, bien devant son Dieu. Gloire à notre Dieu. La justice, donc voilà pour la bonté. La justice maintenant. La justice, elle, nous pouvons la définir comme le fait de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Hein? Être juste, c'est faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Mais ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est tout ce que Dieu approuve. Ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est tout ce que Dieu approuve, tout ce avec quoi Dieu est d'accord, tout ce que Dieu recommande. Gloire à notre Dieu, mes frères et mes sœurs. Là aussi, nous avons la capacité de mener une vie de justice. Pourquoi? Parce que l'œuvre divine en nous nous a justifiés, nous a rendus justes. Encore une fois, je vous dis ce que j'ai dit tout à l'heure, ou que je disais dimanche dernier, Dieu ne nous donne pas quelque chose qu'il nous demande. Dieu nous a justifiés. Il a fait de nous des gens justes, il nous a rendus justes. Et alors, dans ça, par la justification, et alors, nous sommes, eh bien, capables de vivre dans la justice. Hein? Nous sommes capables de nous sanctifier en grandissant dans la justice que Dieu nous a imputée. Et de la même manière, nous menons une vie juste devant Dieu, eh bien, ça nous amène à une vie de droiture. Donc, Dieu, qui est lumière, est défini dans la Bible comme étant un Dieu juste. Il est amour, il est bonté, il est compatissant, il est miséricordieux, mais également il est juste. Psaume 7, le verset 10, Isaïe 45, verset 21, et j'en passe. Et parce que son peuple, c'est son peuple est appelé à refléter sa lumière sous l'angle de la justice. Son peuple est appelé à refléter son image en vivant une vie de justice, en étant juste. Et en vivant dans la justice. Maintenant, la vérité. La vérité, elle aussi, c'est une qualité de Dieu. Hein? Voyez-vous, encore une fois, Dieu ne nous demande pas ce qu'il ne nous a pas donné. Dieu nous donne la capacité de vivre une vie de vérité. Parce que lui qui est la vérité, le chemin, il vit en nous. Jésus dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans 1 Thessaloniciens 1er, verset 9, Paul va parler de Dieu comme étant le Dieu vivant et vrai. Vrai, c'est vérité. Alors, nous comprenons très bien que nous sommes connectés à ce Dieu-là. Il vit en nous, nous vivons en lui. Nous avons sa nature. Ah. Ainsi, si nous nous efforçons dans la prière et la méditation, dans la dépendance au Saint-Esprit de Dieu, nous sommes capables de faire notre possible. En tant qu'Église du Seigneur, il y a des journées où nous serons à 10 sur 10, d'autres où nous serons à 8 sur 10, mais une vie de justice est possible. C'est une question de Abraham, Jacob, Isaac ou Moïse. L'oratoire, Sergo, André, Pierre, Jacques, nous sommes tous capables, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, de vivre une vie de justice, de bonté, et également une vie de vérité à mes frères et mes sœurs. Donc, la vérité, la marche dans la vérité, fait partie de la marche dans la lumière. La marche dans la bonté fait partie de la marche dans la lumière. La marche dans la justice fait partie, ou bien explique, traduit la marche dans la lumière. Et pourquoi Paul n'a pas pris d'autres exemples? D'abord, il n'a pas le temps d'en prendre d'autres. Il a seulement produit un texte sur 6 chapitres, mais vous devez comprendre que tous les actes dans la vie rentrent dans ces trois catégories-là. Tous les actes dans la vie rentrent dans ces trois catégories-là. Bonté, justice, vérité, croyez-moi. Tout ce que tu fais rentre dans ces trois-là. Tout, 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 tout. Ou tout ce que tu ne fais pas rentre dans ce cadre-là, dans le sens où tu ne le fais pas, tu ne marches pas dans la lumière. C'est les trois champs de l'éthique chrétienne. La bonté, la vérité. On sait que l'amour, c'est en premier. Mais pas besoin que pour bonté dans l'amour. Amour dans la bonté. OK? La vérité dans l'amour. Pas besoin que pour. Même si c'est l'amour qui est reine, qui est chef là, mais vérité dans l'amour. Donc, on n'a pas besoin de dire un peu le bagage sur du monde, non. Marcher dans la vérité comme l'Église, marcher dans la justice et marcher dans la bonté. Voyez-vous? Alors, c'est bien important de comprendre aussi cette dimension-là des choses de Dieu lorsque nous avons quelqu'un qui écrit sur 6 chapitres. Alors, et c'est important. La vérité, frères et sœurs, caractérise les faux docteurs. Paul en a beaucoup parlé aux 2 épîtres de Saint Paul aux Corinthiens. Il en a beaucoup parlé aux frères et sœurs d'Éphèse également. Toute sa vie, il faisait face à des faux docteurs qui contrecarraient son évangile. Il en parle souvent. Mais Paul se rappelle que les faux docteurs, ils ne vivent pas dans la vérité. Ils ne vivent pas dans la bonté, ils ne vivent pas dans la justice. Pourquoi? Ce sont des faux docteurs. Alors, si l'enseignement des gens ne sont pas vrais, n'est pas vrai, alors on comprend que les gens ne marchent pas dans la vérité. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? C'est la même raison que Paul a dit aux frères et sœurs d'Éphèse de marcher dans la bonté, dans la justice et dans la vérité. Parce que ils sont au courant de la marche des faux docteurs. Et par extension, de la marche des païens. Paul dit, si la non-bonté, ou alors l'absence de bonté, la non-vérité, ou l'absence de vérité, la non-justice, ou l'absence de justice caractérise la marche des faux docteurs, et particulièrement et surtout des païens, il n'y a pas de raison que l'Église, elle aussi, marche dans la non-bonté, dans la non-justice, dans la non-vérité ou alors dans le mensonge. Paul dit que la vérité est au cœur de l'Évangile. La vérité est au cœur de l'Évangile. L'Évangile est né en réaction au mensonge. Quand Satan est venu en Éden et dire à la femme, ce n'est pas vrai, Dieu vous a menti. Lui, il mentait quand il disait cela. Et en réaction, Dieu a dit, écoutez, je mettrai inimitié entre toi et la femme. C'est ce qu'on appelle le proto-évangile. Ainsi, l'évangile est né là. Dieu annonce son projet de l'évangile. Dieu annonce, donc, votre frère vous a bien dit, ne vous a pas induit en erreur en vous disant que l'évangile est né en réaction au mensonge. Mais si l'évangile est né en réaction au mensonge, comment l'Église évangélique peut-elle vivre dans le mensonge, dans la non-bonté, dans la non-justice? Comment ça? C'est quoi le problème? Comment ça? Cette église est dérangée. Ce chrétien est dérangé. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris, ce chrétien-là, cette chrétienne-là, cette église-là, ce pasteur-là? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Il n'a pas compris que l'évangile est donné. Je remplace né par donné parce qu'il est éternel. Il est né dans le ciel. L'évangile est donné en réaction à la non-bonté, à la méchanceté du malin, de l'adversaire, Satan le diable, qui a détourné l'attention de l'homme et de la femme sur les ordres divins, sur le commandement saint de Dieu. Il a menti pour y parvenir. Il a utilisé la ruse pour y parvenir. Et puis, pasteur, après, il vit dans la ruse. Que pasteur, l'an social. Fidèle, après, il vit dans la ruse. Que fidèle, l'an social. C'est quoi le problème de l'Église? L'honnêteté est au cœur de l'Évangile, dit Saint Paul. La franchise, la droiture est au cœur de l'Évangile. L'honnêteté, la franchise, la droiture est au cœur des relations chrétiennes. En pile fois. Alors, C'est bien important de comprendre cela. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que tout cela veut dire concrètement? Il est question d'honnêteté dans les relations entre l'Église, au sein de l'Église, dans la vie de l'Église. Il est question d'honnêteté. L'Église est un peuple de droiture. C'est pas moi qui le dis, ni qui le fait. Je n'aurais pas été capable de le faire. Peut-être même pas le dire. L'Église est un peuple de la droiture, c'est une communauté de la droiture. Il est question d'honnêteté dans les relations entre frères, entre sœurs. Il est question, frères et sœurs, de fidélité, d'intégrité dans les relations. Marcher avec justice, marcher avec vérité, comme vous le faites déjà si bien, en tant que peuple fidèle, c'est quoi concrètement, pasteur? C'est être franc, être honnête, c'est jouer carte sur table. Et en vérité, frères et sœurs, beaucoup de problèmes dans les familles seraient évités si le monde jouait carte sur table. Beaucoup de problèmes seraient évités, frères et sœurs, si la franchise était toujours au rendez-vous. Beaucoup de chicanes, beaucoup de conflits pourraient être évités, frères et sœurs, dans certains groupes, dans certaines familles, dans certaines institutions, dans certaines missions. Moi, je travaille au ministère des Cultes, OK? En plus, là, nous comptons ça déjà, mais nos fiches. Fiche-moi les mouvines là. Je travaille au ministère des Cultes, OK? J'étais le bras droit du directeur général du ministère des Cultes. Je voyais des organisations religieuses, des missions, de grands hommes de Dieu qui avaient discuté pour l'Église, pour l'argent. Mais à les écouter là, parce que moi j'étais arbitre, même à faire l'Église Nerea, qu'on a fait l'Église Nerea, j'étais arbitre là-dedans. J'étais arbitre là-dedans, à faire bagarre l'Église Nerea. J'étais arbitre là-dedans, lors l'Église a été fermée, les ministères des cultes fermés, j'étais là. J'étais jeune fonctionnaire là-dedans, haut fonctionnaire là-dedans. Et puis l'autre, des gens qui ont parlé, il y a un blanc qui vient et tout, oui. Il y a un blanc, il y a un pasteur local, pasteur étranger. Où est un seul bagage? Où est-ce manque d'honnêteté? Où est-ce manque de franchise qui fait tout conflit à, pour ministère dès que le monde a bien jugé? Moi, pasteur, même chrétien, moi. Où est-ce un seul bagage franchise qui va gagner honnêteté qui fait tout problème? Alors, le Seigneur vous a préservé. Il a préservé votre Église. Ne prenez pas cela pour acquis. Et heureusement, vous êtes un peuple de prière. Je n'ai pas à me plaindre de votre attitude de prière. Le Seigneur va continuer à vous préserver. Mais pas de désordre. Donc, il y a dans l'affaire. Et l'Église qui ne va comprendre l'identité. L'Église qui ne va comprendre qui mon est, où elle est. Tant que son blague, le Saint-Esprit de Dieu vit en lui maintenant. Alors, faut faire attention à boucher, ça l'a dit. Amen, ça l'a touché. Appuyer le côté le bralé. Agir, ça l'a gardé. Aboucher, ça l'a mis là dans lui. On a compris, c'est comme dit dans son fable. Enfin, le Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Père Saint-Esprit a, il pas quoi la vivre dans l'ivraie. Parce que mon Père Saint-Esprit a, il est au fin de Saint-Esprit à vivre dans lui, il pas convaincu c'est vrai. Il faut le descendre un gros boule bagaille dans le ventre lui, pour le comprendre, pour le croire que Saint-Esprit a vivre dans l'ivraie. Il faut le descendre un bagaille bougeant dans le ventre lui. Tant comme une servante enceinte à porter ton bébé. Faut que tu m'en en mouvement, que laisser les en pile monde t'a point meilleur dans ta vie, mon Dieu. C'est là que tu as cru que cet esprit a en livré. Je vous ai préservé à l'oratoire. Priez qu'il en soit toujours ainsi. Le résultat, frères et sœurs, verset 10, le résultat de la marche dans la lumière, ou de la marche comme des enfants de lumière, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres fructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il ne s'agit pas, vous l'aurez noté, seulement de ne pas marcher dans les ténèbres. Ou alors, il ne s'agit pas simplement de ne pas pratiquer les œuvres des ténèbres. Il est aussi question de les dénoncer, de les décourager. Même si on dit des amours, des mots non pas bibliques ou des frères non pas bibliques.
Ou dit seulement, on comprend ma voix, c'est vous, mais c'est pas biblique. C'est parce que Dieu dit, si vous en m'ouvrez, il faut me cadou, c'est pas biblique. C'est pas l'aime pas douce en yéan, nous en mou. M'a pas aidé. Non, c'est parce que c'est pas biblique, non. On comprend, c'est parce que vous fâchez, mais ça se dit pas non. Ça se fait pas non. Ce n'est pas parce que le fait le roi le fait le tout pour plaire. Ce n'est pas appelé à plaire aux hommes. L'Église n'est pas appelée à plaire aux hommes. C'est ce que Pierre a dit, oui, au prétoire. Jugez en vous-même s'il faut plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Vous avez vécu 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ensemble, c'est vrai. C'est mon fils, c'est ma fille, c'est papa, c'est ma femme, c'est vrai. Mais t'es pas biblique. On ne doit pas donner peut-être devant le monde, même pas qu'à faire quoi avoir. T'es pas biblique dans ta façon de parler, sœur. T'es pas biblique dans ta façon de parler, frère. T'es pas biblique dans ta façon d'agir, frère. T'es beau être mon mari, mais t'es pas biblique. C'est pas bien. Beaucoup arrivé, mais c'est ça, verset 10, ça dit là. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, verset 11, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Si m'pas biblique, ou pas dimanche, c'est ton problème. Nous, ça déjà. Un pasteur, ou depuis m'pas biblique, relève, m'dit pasteur, on a regardé. On a regardé. Mon carbone au verset tout, mais sous pas dit pas biblique, c'est ton problème. Sous jouer, c'est ton problème. Mais sourire les mados du pasteur, il me semble que. Essayez pour eux. Pourquoi j'en ai essayé? Bon, il y a mon olé essayé. Bon, c'est pas vous-même. Mais il y a mon olé essayé, dit pasteur, tu pas à deux. Et puis, tu cours, frère. Pas de problème avec ça. Mais c'est pas votre cas, OK? Frères et sœurs, je vais essayer de traiter les versets 10, 11 en même temps, OK? Voici ce que Paul dit, en résumé, OK? Versets 10 à 13. Je vais essayer de traiter les trois ensemble, si possible. Regardez bien, voici ce que Paul dit. Paul dit, lorsque l'Église manifeste le fruit de la lumière, c'est-à-dire la bonté, la justice, la vérité, l'Église découvre ce qui est agréable au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Il est question de comprendre ce qui est agréable au Seigneur, c'est de comprendre, de saisir, de connaître quelle est la volonté du Seigneur. Il le dira au verset 17. On y arrivera encore. Il le répétera. Ah! Dans l'Ancien Testament, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, notre Dieu se plaisait, hein, il se plaisait à accepter les sacrifices si seulement ces sacrifices-là qui lui étaient offerts lui plaisaient. Quand les sacrifices ne lui plaisaient pas, il ne les acceptait pas. Et il le disait haut et fort, afin que son peuple l'entende parler, le comprenne. Dans l'éthique du Nouveau Testament, cela n'a pas changé. Dieu recevra les sacrifices qui lui plaisent, qui lui sont agréables. Ça n'a pas changé, contrairement à ce que certaines théologies veulent faire croire, parce qu'on est sous la grâce. Attention, ce n'est pas vrai. Ah! Même si je suis sous la grâce, si je me lève mal au fond, mon Dieu, en adoration, ça ne me pas confesser ses péchés, mais bon Dieu, pour adoration, hein? Même si je suis sous la grâce. Oh, quelle la grâce? La grâce n'est pas une licence à bon marché pour déplaire à Dieu et croire qu'on a accès au trône de Dieu dans la prière. Non, ce n'est pas ça la grâce que j'enseigne moi, en tout cas, que Saint Paul enseigne comme le pasteur de la grâce, comme l'enseignant de la grâce. Ce n'est pas ça la grâce. Romains 6. Allez, Romains 6, la caille, ouais. Dans l'éthique du Nouveau Testament, cela n'a pas changé. Dieu continue d'accepter de recevoir seulement les sacrifices qui lui sont agréables. C'est vrai pour offrir moins. Si je m'offre un compte au cœur, mon Dieu, ouais, il va recevoir. Vous mettez dans le plateau à l'exemple, en ligne, il dit acheter ça le besoin, mais bon Dieu va recevoir au fond, non? C'est tout. Il va me balayer à contre cœur. Il va me balayer dans le fossé. Oh. Et le passage, l'un des passages les plus connus à cet égard, c'est Romains 12. Romains 12, 1 à 2. Verset où on met en pile. Dans ce verset, Paul lui dit, oh, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, que saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable, un culte raisonnable, un culte qui a du bon sens, un culte qui respecte la gloire, la grandeur, la dignité de l'Éternel. Un verset qu'on connaît très bien. Hein? Paul utilise l'image du sacrifice pour inviter l'Église à offrir son corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Hey, gloire à notre Dieu. Et pourquoi? Mais pour discerner quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est bon et ce qui est agréable. Plus nous servons Dieu dans la lumière, plus nous comprenons l'importance de marcher dans la lumière, plus nous serons capables de marcher dans la lumière, plus nous serons en mesure de faire que mon Dieu content. Ah, c'est le principe de l'investissement. C'est le principe de l'investissement dans le service chrétien. Plus on baille mon Dieu, plus on va recevoir. Plus on entend des messages, on entend des enseignements, on étude biblique, plus on vit nos meilleurs chrétiens, plus on lit la Bible, plus on vit nos meilleurs chrétiens, c'est vrai en tout. Sous place, c'est l'argent, la même bagaille. Sous place, c'est 300 000 dollars, on l'autre place, c'est 600 000 dollars, mais ça place, c'est 600 000 dollars, il y a plus l'argent. C'est vrai tout dans le service de Dieu. L'homme t'a grandi, moi, ma négo a aisé. Moun ki tan de papam plus la, li gen plus enseignement nan men papam. Se vwe osi pou piti tou la, sak tan do plus la, la gen plus bon kompran. Si li pa met en pratik, se ot chose. Men sa, soak touj nan piye papal la, nan piye moun ap tan de papal moun ap papal la, la gen plus bon enseignement. Si evidaman, e bon, dan vot ka, ou bay bon enseignement, mta val di si evidaman moun nan bay bon enseignement, men dan le ka de l'Eglise, oui, vou donen le bon enseignement. Se kon sa mache? C'est ce que Paul est en train de dire ici, oui. Plus nous marchons dans la lumière, plus nous marcherons dans la lumière. Et gloire à notre Dieu. Frères et sœurs, je vais terminer avec ceci. Il est déjà 21 heures. De même que les enfants, sur la base de l'amour qu'ils ont pour leurs parents, ils cherchent à découvrir ce qui plaît à leurs parents. Et ensuite, ils font ce qui plaît à leurs parents. De la même manière qu'une femme, qu'une épouse, une sainte femme de Dieu, cherche toujours à savoir ce qui plaît à son mari pour être capable de le faire, pour que son mari soit content, soit heureux. Ou l'inverse est aussi vrai. Le saint homme de Dieu fait la même chose pour que madame soit heureuse. L'Église, en tant qu'épouse du Seigneur, en tant que la fiancée du Seigneur, est appelée chaque jour à creuser dans la parole. À creuser, à fouiller dans la parole, dans la prière, à passer du temps avec Dieu pour savoir ce qui plaît à Dieu, pour s'appliquer à le faire, pour faire que mon Dieu content. Mon Dieu, c'est pas un bout de bois. Il est esprit, mais c'est pas un bout de bois. Quelqu'un est content, quelqu'un n'est pas content. Tout dépend de l'agissement de son peuple. On l'a vu avec Israël. Dieu s'attend à ce que nous nous fassions plaisir. Dieu s'attend à ce que nous menions, nous marchions d'une manière qui nous soit agréable. Incidemment, il nous le dit. Voyez-vous combien de fois marcher se répète dans l'Écriture? Dieu fait mon bout de bois. Dieu n'est pas inerte. Dieu est esprit. Il est vivant. Il est une personne spirituelle. Mon bout de bois. Bon fait, bon Dieu. Dieu est vivant. C'est une personne. Une personne. Une personne divine. Une personne spirituelle, invisible. Il fonctionne dans un autre monde. Il fonctionne dans l'invisible. Nous sommes créés à son image. Même jour, on remet mon fort plaisir. Bon Dieu, on fait le plaisir. C'est dans mon Dieu, on remet mon fort plaisir. Et dans mon Dieu, on c'est pas dans Satan. Ça va venir de par hasard. C'est une question de juste biologie. C'est Dieu qui t'a fait comme ça. Ça fait partie de te créer à son image. Quand nous savons cela, nous nous appliquons à faire que mon Dieu content. Et puis, plus mon Dieu content, c'est plus nous fortifié, c'est plus nous grandi. C'est plus que problème pour qu'on finisse avec nous, pour qu'on fasse nous ça, vous voulez. C'est plus que nous avons la joie dans l'épreuve, plus nous semblons à bon Dieu. Mais pour sembler à bon Dieu, il faut rester collé sur bon Dieu. Pour qu'on salve, il faut rester collé sur lui. On pourrait attendre la parole, jour on fait là, et puis c'est comme ça. Malheureusement, et l'inverse est aussi vrai. Plus on n'a pas collé sur mon Dieu, plus on n'a pas bon Dieu. On n'a pas parole, on n'a pas faire bon Dieu plaisir. On n'a pas gagal, on n'a rien. On n'a pas gagal, on n'a rien. Moun wakon an, se pa fote li. Li pa kole sou moun Dieu, pa kon tan de bas. Li pa tan de bon Dieu ka pale, pa tan de moun ka pale de bon Dieu. Men sou vle l'fè. Sou vle l'fè. Li pa ka baye sal pa gen. Soyez bénis, peuple du Seigneur. Si vous avez des questions, je vous laisse 5, 6, 7 minutes pour le faire avec la permission du peuple de Dieu.